9, c'est le chapitre le plus long du livre des juges. On va lire quelques versets, pas tout le chapitre. Et c'est important de réaliser que Abimélec n'est pas mentionné comme juge. Il est vu comme roi, un roi apostat, mais il n'était pas un sauveur comme les autres juges, ni un juge vraiment selon les pensées de Dieu. C'est un usurpateur. Et Abimélec, fils de Jérubbaal, alla à Sichem, vers les frères de sa mère, et leur parla, et à toute la famille de la maison du père de sa mère, en disant, « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les hommes de Sichem, lequel est le meilleur pour vous, que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Et les frères de sa mère dirent de lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les hommes de Sichem. Et leur cœur fut incliné vers Abimélec, car ils dirent, « Il est notre frère. » Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent tirées de la maison de Baal-Bérit. Et Abimélec loua avec elle des hommes légers et téméraires, et ils le suivirent. Il vint à la maison de son père, à Ophra, et tua sur une seule pierre ses frères, les fils de Jérubbaal, 70 hommes. Mais Jotham, le plus jeune, fils de Jérubbaal, demeura de reste, car il s'était caché. Et tous les hommes de Sichem s'assemblèrent, et toute la maison de Milo, ils allèrent et établirent roi Abimélec près du chêne du monument qui est à Sichem, et on le rapporta à Jotham. Et il s'en alla, et se tint sur le sommet de la montagne de Garizim. Il éleva sa voix, et cria, et leur dit, « Écoutez-moi, hommes de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Les arbres allèrent pour oindre un roi sur eux. Et ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous !» Et l'olivier leur dit, « Laisserai-je ma graisse, par laquelle on honore par moi Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous !» Et le figuier leur dit, « Laisserai-je ma douceur et mon bon fruit, et irai-je m'agiter pour les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous !» Et la vigne leur dit, « Laisserai-je mon moût, qui réjouit Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres ?» Et tous les arbres dirent à l'épine, « Viens, toi, règne sur nous !» Et l'épine dit aux arbres, « Si vraiment vous voulez moindre roi sur vous, venez, mettez votre confiance en mon ombre, sinon un feu sortira de l'épine et dévorera les cèdres du Liban. Et maintenant, si vous avez agi avec vérité et en intégrité en établissant roi Abimélec, et si vous avez bien fait envers Jérubbaal et envers sa maison, et si vous lui avez fait selon les actes de ses mains, car mon père a combattu pour vous et a exposé sa vie, et vous a délivré de la main de Madian, et vous vous êtes levé aujourd'hui contre la maison de mon père, et vous avez tué ses fils 70 hommes sur une seule pierre, et vous avez établi roi Abimélec, fils de sa servante, sur les hommes de Sichem, parce qu'il est votre frère. Si donc vous avez agi aujourd'hui avec vérité et en intégrité envers Jérubbaal et envers sa maison, réjouissez-vous en Abimélec, et que lui aussi se réjouisse en vous. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec, et qu'il dévore les hommes de Sichem et la maison de Milo. Et qu'un feu sorte des hommes de Sichem et de la maison de Milo, et qu'il dévore Abimélec. Et Jotham s'échappa et s'enfuit et alla à Béer, et habita à cause d'Abimélec, son frère. Et Abimélec fut prince sur Israël 3 ans. Et Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les hommes de Sichem. Et les hommes de Sichem agirent perfidement envers Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal vint sur lui, et que leur sang fut mis sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les hommes de Sichem, qui avaient fortifié ses mains pour tuer ses frères. Et là, il y a des détails de cette rétribution. Et à la fin, nous lisons concernant la mort d'Abimélec, verset 52. Et Abimélec vint jusqu'à la tour et l'attaqua, et il s'avança jusqu'à l'entrée de la tour pour la brûler par le feu. Et une femme jeta sur la tête d'Abimélec une meule tournante, et lui brisa le crâne. Verset 55. Et quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun en son lieu. Et Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses 70 frères, et tout le mal des hommes de Sichem, Dieu le fit retomber sur leur tête. Et la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal, vint sur eux. Jusqu'ici la lecture de la parole. Donc nous avons vu que ces choses qui sont arrivés à Israël ont une signification morale pour nous, sont des leçons pour nous, individuellement, comme rassemblement, et aussi pour tout le peuple de Dieu. Et selon l'enseignement de l'Apocalypse 1 à 3, nous voyons que ces choses qu'on trouve ici parlent aussi de l'histoire de l'Église. L'histoire d'Israël, comme témoignage sur la terre, présente un même développement qu'on trouve aussi dans l'histoire de l'Église. Nous avons vu aussi que ces choses ont une signification future en rapport avec Israël et le reste fidèle. Et je pense que aussi dans le futur, il y aura un reste fidèle comme Jotham. Son nom veut dire Jéhovah est parfait. Et ainsi, le reste fidèle dans le futur, après l'enlèvement de l'Église, donc le reste fidèle parmi les Juifs, sera comme ce Jotham. Et Dieu va aussi juger le roi, l'Antichrist. Mais je ne veux pas parler de ces détails-là, ça prendrait trop de temps. Mais on a beaucoup d'enseignements là-dessus dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse et les prophètes, et même dans les psaumes aussi, beaucoup de psaumes réfèrent à ce développement. Donc ce que nous aimons faire maintenant, c'est d'abord voir les grandes lignes en rapport avec l'histoire de l'Église, et puis suivre le chapitre et voir un peu des détails, des leçons morales aussi, surtout en rapport avec cette parabole de Jotham, des leçons pour nous. On a vu donc que Gédéon a manqué comme juge, et que Gédéon, qui représente cette phase de Pergame, où on a vu Antipas, je l'ai mentionné une des dernières fois, que Antipas, un contre tous, était là, qu'il y avait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais quand même la doctrine de Balaam était introduite, la prostitution, donc le lien avec le monde, et nous avons vu ces mêmes éléments maintenant dans cette phase de déclin après la victoire de Gédéon, comment les éléments de Madianites s'introduisent, et aussi ce Baal qu'on a vu déjà dans Juges 2, avec les Astartes, l'adoration du soleil, l'adoration de la lune, mais aussi chaque forme d'idolâtrie nous parle vraiment de l'influence des démons, et ainsi le service de Satan, qui remplace donc le vrai service de Dieu. On a vu cette transition maintenant entre Pergame et Thyatire, où graduellement l'influence ou l'autorité du pape est devenue de plus en plus grande. On a vu que Gédéon réclame cette place de sacrificateur, et ainsi, dans l'Église, on voit que ces hommes dirigeants ont pris une place de plus en plus importante comme sacrificateur, qui remplace vraiment le service de tout le peuple comme adorateur. Donc, ces deux éléments, l'influence médianite et aussi Baal, et cette prostitution, ce lien, donc c'était aussi une prostitution physique, souvent, l'idolâtrie qui était donc une prostitution spirituelle, allait souvent ensemble avec prostitution physique, et cette prostitution, on voit aussi mentionné dans Thyatire, ces deux éléments que Isabel a enseigné les esclaves de Dieu à manger ce qui est sacrifié aux idoles, et aussi à se prostituer. Ces deux éléments, le lien avec le monde et avec les démons ou les idoles, ces deux choses on trouve ici, en rapport avec ce service pour Dieu, parce qu'au nom, ils ont servi Dieu. Ils ont continué à servir Dieu, mais en réalité, sous cette forme-là, ils servaient les démons. Et on voit ce développement dans l'Église graduellement, surtout après Constantin le Grand, où la persécution était terminée, Smyrne, la persécution, on voit que les chrétiens ont commencé à régner. L'Église est entrée, le monde est entré dans l'Église, ça c'est Pergame. Mais dans Thyatire, on voit que l'Église a régné sur le monde, ça c'est la prochaine phase. Et dans Abimélec, on voit ce désir pour régner. On voit quelques éléments que j'aimerais mentionner tout au début. D'abord, en rapport avec son nom, Abimélec, ça veut dire « mon père est roi ». On a vu que peut-être sa mère, la concubine, a désiré ce nom, mais en tout cas, Gédéon a donné ce nom aussi. Gédéon avait peut-être ce désir dans son cœur d'être le roi, quoiqu'il l'ait rejeté. Il a usurpé la sacrificature, comme nous avons vu. Et maintenant, peut-être, de la part de la mère, elle a poussé cet Abimélec pour avoir cette place de roi. Mais il y a une autre pensée qui s'ajoute. Abimélec veut dire aussi « père du roi » ou « père roi ». Parce que c'est un nom que les rois des Philistins utilisaient souvent. Et c'est la même pensée qu'on a avec le pharaon. Le pharaon, c'est un titre qui se transmet de génération en génération. Donc, on a la pensée de succession. Et on voit aussi dans l'histoire de l'Église que cet élément de succession officielle s'est introduit. Donc, de génération, l'autorité se transmet. Et ainsi, dans l'Église catholique et plus tard aussi dans les Églises protestantes, on voit cet élément de succession officielle. Donc, père du roi, ou on pourrait dire roi paternel. Donc, cet élément de succession est indiqué là. Gédéon a une place prédominante, c'est maintenant son fils. Et on voit cela clairement dans l'église de Pergame déjà, mais plus clairement encore à Thyatire et dans l'histoire de l'église. Maintenant, ce désir pour régner. On voit déjà que Paul dit dans 1 Corinthiens 4, il leur fait des reproches. Il dit aux Corinthiens, vous avez voulu régner. Et aussi dans chapitre 6, je pense, mais en tout cas dans chapitre 4, il parle de ce désir de régner. Il dit, vous êtes trop vite. C'est une dispensation trop vite. On ne peut pas régner. On est la balayure du monde. C'est ça qu'il dit. Donc, Abimélec ne veut pas prendre cette place de la balayure. Les chrétiens non plus ont voulu prendre cette place de l'apôtre Paul. Ils voulaient avoir la puissance de l'apôtre Paul, l'autorité de l'apôtre Paul, mais ils ne voulaient pas suivre vraiment la pratique de l'apôtre Paul, ou de Pierre, n'importe quel apôtre. Donc le désir pour régner. Et ainsi on voit graduellement que l'Église a commencé à régner sur le monde. Et au Moyen-Âge, il y avait un temps que le pape, dans le XIIe siècle, avait une autorité absolue. Il avait aussi l'autorité sur les rois des nations. C'est incroyable, vraiment, ce désir pour régner, et soi-disant dans le nom de Christ, pour représenter Christ. Mais c'était en même temps ayant la puissance sur les nations. Et comme j'ai mentionné ce Pontifex Maximus, ce grand prêtre des nations, il a incorporé beaucoup d'éléments païens dans ce service qui était officiellement pour Dieu. Mais c'était le désir de régner. Puis aujourd'hui encore, on voit que c'est une des convoitises les plus grandes. Une des convoitises les plus grandes de vouloir régner, de vouloir contrôler. Et on va voir la réponse dans la parabole de Jotham. Un autre élément, j'ai mentionné déjà l'idolâtrie. L'idolâtrie est développée. Et on pourrait mentionner beaucoup de points en rapport avec l'histoire de l'Église, surtout l'Église catholique, où on voit graduellement comment cette idolâtrie s'est établie et a été fait beaucoup de progrès dans ce sens-là. Et incorporer les éléments des religions païennes autour d'eux. Mais on n'a pas le temps pour donner beaucoup d'exemples là-dessus. On a des livres là-dessus qui nous donnent beaucoup de détails. On voit aussi que Abimélec est très violent. Il est devenu le meurtre de ses frères. Et un autre élément qui nous frappe beaucoup en lisant l'histoire de l'Église, on voit dans Apocalypse 17 et 18 que dans l'Église a été trouvé le sang des martyrs, des saints. Donc on voit que Abimélec ici représente vraiment cette phase de l'Église catholique, la période de l'Inquisition, les persécutions, comment le sang des saints a été trouvé dans cette Église. Il représente cette phase-là. Il y a un autre détail très intéressant à mentionner. Dieu garde un résidu. On va parler de Jotham. Donc, il n'y a aucune Église dans ces sept lettres de Apocalypse 2 et 3 qui reçoit aussi de recommandations, autant de recommandations que l'Église à Thyatire. C'est remarquable. Parce que je pense que Dieu s'est réservé pendant tout le temps un résidu qui était fidèle, qui, avec la lumière qu'il avait, ont servi Dieu. Et ainsi, le Seigneur recommande Thyatire. C'est à cause de ce résidu qui était fidèle, qui a fait beaucoup pour le Seigneur, beaucoup de dévouement, beaucoup de zèle pendant les siècles dans cette Église quand même. Un autre détail à remarquer, c'est la fin d'Abimélec. Il est tué par une meule qui est tombé, qui est jeté sur lui. Et dans Apocalypse 18, nous voyons un ange qui prend une grande meule et la jette dans la mer. Et ça préfigure la fin de l'Église, de la Grande Babylone. Mais c'est Thyatire, devenu comme la Grande Babylone à la fin, qui va aussi réclamer l'autorité sur les églises protestantes, les dénominations qui resteront sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Et ainsi, cette Grande Babylone sera jugée et est comparé là avec une meule jetée dans la mer. Et c'est remarquable que Abimélec est tué par une meule. Cela m'a frappé de voir ça. Donc il y a beaucoup de parallèles avec cette phase de l'Église vue en Thyatire. L'Église catholique est devenue plus tard la Grande Babylone. Maintenant, pour avoir quelques détails de notre chapitre, on voit d'abord que Abimélec alla à Sichem. Sichem, c'est la place où il est né. Et Sichem était aussi très important dans l'histoire d'Israël. Sichem était la place où Abraham était entré dans le pays, où il avait construit son premier autel comme adorateur. C'est remarquable, là, un vrai adorateur. Plus tard, Jacob, il est devenu un vrai adorateur. Il a enseveli, enterré les idoles près de Sichem. On peut le lire dans Genèse 35. Donc, près de Sichem, il a enterré ses idoles, et puis là, il est allé à Bethel, tout près de Sichem, pour être un vrai adorateur. Donc là, on voit de bons exemples. Sichem, en rapport avec les patriarches. On pourrait mentionner aussi Josué. Dans Josué 24, nous voyons que c'était à Sichem, parce que Sichem était très central, c'est au milieu du pays, c'était à Sichem que Josué a fait l'alliance avec les tribus d'Israël. Et puis cette alliance était en rapport avec cette question-là, choisir qui servir, soit les idoles ou le vrai Dieu. Et Josué avait choisi le vrai Dieu, puis le peuple voulait suivre l'exemple de Josué. Donc la question des idoles est réglée là aussi. Mais ici, on voit que c'est à cet endroit même que l'idolâtrie est introduite de nouveau, ensemble ici avec cette question du roi. Dans 1 roi 12, on voit plus tard que l'idolâtrie a été introduite à Bethel, Bethel qui était tout près de Sichem. Une chose que je voulais dire, ou quelque chose encore en rapport avec Sichem, c'était entre ces deux montagnes, Ebal et Gerizim. Gerizim, verset 7, et l'autre montagne était Ebal. Et puis il semble que si quelqu'un était placé sur un plateau sur la montagne de Gerizim, peut-être il n'était pas tout à fait sur le sommet de Gerizim, mais sur un plateau tout près du sommet, et il semble que de là, si quelqu'un parlait fortement, l'autre côté de la vallée, on pouvait entendre ce qu'il disait. Et on voit aussi dans le livre de Josué, et aussi dans Deutéronome, que Dieu voulait avoir 6 tribus sur une montagne et 6 tribus sur une autre montagne. Puis là, la loi était lue. Josué 8 confirme cela, que la loi était lue. Puis là, ils ont fait cette alliance avec le Seigneur. Ils ont construit un autel là et réclamé le pays pour le Seigneur. Donc c'est une région très importante en rapport avec les patriarches, en rapport avec l'histoire d'Israël. Mais on voit aussi un élément cananéite là qui n'était pas jugé. Les hommes de Hémor, qu'on voit de Hamor, verset 28, père de Sichem. Hamor était donc l'ancêtre de ce clan là, de cananéite, qui est resté là. On voit que les fils de Jacob ont tué beaucoup d'hommes de Sichem, Genèse 34, mais quand même, ce clan-là est resté là. Et avec l'entrée du peuple de Dieu dans le pays, on voit que ces gens-là n'ont pas été tués comme les autres nations. Un reste, en tout cas, est resté là. Puis ils jouent un rôle aussi. Donc c'est l'influence cananite. Et nous avons vu déjà au début de Juges que ces nations qui sont restées là sont devenues un piège pour le peuple de Dieu. Et cette idolâtrie Baal-Bérit est venue de là aussi. Parce que Baal-Bérit jouait un rôle très grand dans ce milieu-là. On va le voir aussi dans le verset 2, où les hommes, je le mentionne maintenant déjà, les hommes de Sichem sont mentionnés les maîtres ou possesseurs, selon la note. Littéralement, c'est Baalim. Donc les hommes, les citoyens de Sichem sont appelés des Baalim. Ça veut dire des hommes de Baal. Donc, le point à amener, c'est celui-ci. Les citoyens de Sichem sont appelés des Baalim. Ça veut dire donc ceux qui suivent Baal. Ils sont caractérisés par cette idolâtrie Baal. Baal est leur maître, au lieu de Dieu, l'Éternel est leur maître. Et puis, donc, à travers tout le chapitre, on voit que dans l'original, ces hommes sont appelés Baalim, qui ont reçu donc leur caractère de Baal. Ils sont de vrais serviteurs de Baal. Donc là, où l'idolâtrie avait été mise de côté par les patriarches, par le peuple sous la direction de Josué, c'est exactement là où l'idolâtrie devient de nouveau un piège pour tout le peuple. Ça, c'est remarquable de voir. Une autre chose, à Sichem, il avait la coutume de sacrifier des ânes. Par exemple, lorsque les gens ont conclu un traité, un contrat, ils ont sacrifié un âne. Donc, juste pour mentionner le contraste avec le service de Dieu, où un agneau était utilisé, ou briser la nuque de l'agneau, où les animaux purs étaient sacrifiés. Ici, c'était un âne qui parle donc de l'esclavage. Ces gens étaient sous l'esclavage de Satan et caractérisés par le fait qu'ils ont sacrifié des ânes. Et aussi, le mot Sichem veut dire épaule, et souvent c'est mentionné en rapport avec le dos d'âne. C'est comme un dos d'âne, littéralement. Géographiquement, la région, là, on voit comme un dos d'âne. C'est remarquable. On voit donc ici, Sichem veut dire épaule. C'est un centre du pays, centre qui parle de puissance, épaule. C'est là où le fils de Jérubbaal vient. Et ça, c'est comme quelque chose de tragique. Son père, Jérubbaal, veut dire donc celui qui a combattu Baal. Son fils, maintenant, introduit de nouveau cette religion de Baal, officiellement en rapport avec cette question de la royauté. C'était Dieu qui avait combattu Baal à travers Gédéon, ça c'est clair. Mais c'est le peuple maintenant qui réclame Abimélec comme le roi au lieu de Dieu, avoir Dieu pour le roi. Un autre élément dans le premier verset, Il parle maintenant à la famille de la maison du père de sa mère. Donc il s'identifie avec le côté de sa mère au lieu d'être identifié avec le côté de son père, Gédéon. Donc probablement il voit là une ouverture pour imposer sa royauté plus facilement. Verset 2, dites, je vous prie aux oreilles de tous les hommes de Sichem. Donc il parle maintenant à la maison du père de sa mère, puis eux vont parler à ces hommes ou Baalim de Sichem, les serviteurs de Baal là. De nouveau, on voit donc un mélange d'une religion cananéenne avec la religion de Dieu, comme on a vu tantôt, qui est caractéristique aussi pour Thyatire. Que 70 hommes, tout fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de la domination. Et dans la pensée de Dieu, c'est que un seul chef, le Seigneur Jésus, lui-même, dans nos jours, ou dans ces jours-là, l'Éternel, qui soit le chef, et que tous les autres soient vraiment soumis à son autorité. Mais lui, il suggère maintenant d'avoir un seul homme qui domine au lieu de Dieu. Et souvenez-vous que il ajoute maintenant un argument. Souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Donc, il s'identifie davantage avec le côté de sa mère. Et puis, les gens qui parlent maintenant répètent cet argument, verset 3 à la fin, il est notre frère. Maintenant, un point remarquable, ces gens-là qui veulent promouvoir la royauté d'Abimélec, il donne un sens limité ou sectaire à ce nom de frère. Il est notre frère, ça n'inclut pas la pensée d'un secte ou d'une partie. Mais ici, il utilise cet argument, il est notre frère, pour justement créer une secte, une partie. C'est remarquable. Donc on peut abuser la relation de frère pour créer une partie, une secte, au lieu d'être tous frères ensemble sous le joug du Seigneur Jésus. Donc, il perd de vue le vrai sens du mot frère. Et ça peut nous arriver aussi, et c'était le cas dans l'Église. Une des grandes réunions de l'Église qu'ils ont eues dans les jours où Constantin est devenu l'empereur, mais aussi le chef de l'Église, il y avait un clergé sur cinq personnes qui étaient donc laïques. Mais quand même, le total du clergé a gouverné la réunion avec l'empereur, là, ensemble. Donc, on voit cette tendance de vouloir dominer. Verset 4 nous montre la façon dans laquelle ils ont agi. Ils peuvent même utiliser les trésors de cette maison Baal-Bérite, peut-être de la maison qui avait été donnée comme sacrifice, qui est maintenant abusée pour tuer ses frères. Donc j'ai mentionné cet élément du meurtre, ça c'est très solennel, de voir ici un frère qui tue ses propres frères. Comme on le voit dans Caïn qui était jaloux, c'est de nouveau l'envie, cette jalousie qui est le motif et cette convoitise de vouloir régner qui est le motif pour tuer ses frères. Et peut-être il l'a fait lui seul dans la présence de tous les autres, sur une seule pierre. Maintenant, ce reste fidèle. Dieu garde un résidu pour lui-même. Et c'est ça la consolation. Si on lit ce chapitre-là, c'est tellement noir, tellement décourageant de voir ça au milieu du peuple de Dieu. Et comment il est consolant de voir que Dieu se réserve un résidu. Pense à Ésaïe 6. Ésaïe 6, on voit que Dieu doit châtier son propre peuple à cause de leur endurcissement, que Dieu doit même envoyer un esprit d'aveuglement pour châtier son peuple. Et ils sont aveuglés. Ils peuvent voir, ils ne voient pas. Ils peuvent écouter, ils n'écoutent pas. Et leur cœur est devenu gras. Et puis là, on voit que Dieu se réserve un reste. Un dixième est gardé comme reste. Et puis dans Ésaïe 6, on voit donc que Dieu se réserve ce reste, cette semence sainte, et ainsi Dieu s'est réservé ici un seul homme de ces 70 hommes comme un reste fidèle. Et ce nom Jotam, Jéhovah est parfait. C'est tellement encourageant de voir que dans les jours de ruine, Dieu se montre dans sa perfection. Il demeura de reste car il s'était caché. Il y avait aussi dans les jours de après Isabelle, Athalie, qui avait tué la semence royale, et puis là, il y avait seulement un prince qui était caché aussi. Donc Dieu discerne et garde pour lui-même un reste. Même pendant ces 1000 ans de l'Église catholique aussi, il a gardé un reste. Et même dans nos jours, il y a encore un reste. Quoique moins évident peut-être que dans le passé. Verset 6, et tous les hommes de Sichem s'assemblèrent et toute la maison de Milo. Donc Milo était un quartier, peut-être plus fortifié, une citadelle appartenant à Sichem. Et les gens de cette région-là ont établi et Abimélec, roi, près du chêne, ça c'est remarquable, c'était un arbre sacré, comme on voit déjà dans Genèse 12 peut-être, et c'était sur la montagne d'Ébal. Ça, c'est aussi important à remarquer. Ébal, c'était la montagne de la malédiction. On le voit dans Deutéronome 11 et 27, si vous voulez le lire. Et sur cette montagne-là, la malédiction était prononcée. Par contre, Jotham, il se place sur la montagne de Garizim, la montagne de la bénédiction. Donc, on voit que ces hommes-là, peut-être dans leur ignorance, en prenant cette place d'Ébal, ils s'identifient avec la malédiction. Ils sont sous la malédiction. Aussi par leurs actions, ils se placent sous la malédiction et sous le jugement de Dieu. On a marqué déjà le fait tragique que c'était quand même dans la région où Jacob avait enseveli les idoles. Eux réintroduisent maintenant les idoles ensemble avec ce nouveau roi. Donc sur Garizim, Jotham s'est placé et a élevé sa voix. Maintenant, cette parabole qui nous donne aussi beaucoup d'enseignements. Donc, on voit ici, c'est bien simple, la parabole, l'olivier a quelque chose de meilleur que d'agir pour les arbres, le figuier et aussi la vigne ont quelque chose de meilleur. Pour ces arbres-là, ce serait une dégradation d'abandonner leurs produits. Ils pouvaient être une bénédiction par les produits qu'ils produisent pour les hommes et pour Dieu. Par contre, l'épine n'a rien. Et puis, l'épine convoite la domination. Et puis, c'est bien clair dans cette parabole-là, l'épine, c'est Abimélec. Et il dit aussi que cette épine-là va produire du feu. Et littéralement, on voit dans ce chapitre qu'Abimélec a présenté le feu à plusieurs endroits. Il les a détruits par le feu. Et aussi que, d'un autre côté, dans le jugement de Dieu, dans la rétribution, lui est dévoré par le feu lui-même ou par la mort. Maintenant, l'application morale pour nous. Je pense que cette parabole est très importante pour nous. On va d'abord voir ce que ça veut dire un olivier, un figuier, une vigne. Et puis là, aussi l'épine. Puis là, on va voir sous quelle influence nous nous plaçons. Vous voyez, les gens de Sichem, eux, se sont placés volontairement sur l'influence de l'épine, au lieu d'être sous l'influence de l'olivier ou de la vigne ou du figuier. Eux se sont placés volontairement sous l'influence de l'épine. Donc la première question est celle-ci. Par quel principe nous sommes conduits, nous sommes dominés? Est-ce que c'est par les principes en rapport avec l'épine ou est-ce qu'on est dominé par les principes en rapport avec excusez, l'olivier, la vigne ou le figuier? Et deuxièmement, dans l'application, on pourrait se demander, est-ce que moi, je fonctionne comme un olivier, comme un figuier, comme une vigne, ou bien est-ce que moi, je fonctionne comme une épine? Ça, c'est donc la deuxième question en rapport avec l'application. Je pense qu'on peut suivre les deux applications pour nous. On voit donc dans l'histoire de l'Église qu'ils ont mis de côté l'olivier. L'olivier nous parle de l'Esprit Saint. L'huile était utilisée pour oindre les rois, les prophètes, les sacrificateurs, et ça nous parle de l'opération, de l'influence, de la direction de l'Esprit. Aussi pour le service, l'onction nous parle de cette préparation pour un service public pour Dieu, sous la direction de l'Esprit. Dans l'Église, on voit bien, bien vite que cet élément a été mis de côté entièrement. Deuxièmement, le figuier nous parle de la justice et de la parole de Dieu, le fruit de la justice. Je vais donner quelques versets plus tard. Et l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà, l'Église s'est placée au-dessus de la parole de Dieu, a donc mis de côté l'autorité de la parole de Dieu, mis de côté le figuier. La vigne nous parle de la personne du Seigneur Jésus, la joie de la communion avec lui, la joie de la communion avec le Père. On peut introduire la pensée de l'adoration aussi en rapport avec cela. La réponse, la joie que Dieu partage avec nous et nous avec les uns avec les autres. Cette communion a été perdue dans l'histoire de l'Église. Ils ont choisi l'épine qui nous parle du péché, de la réclamation d'une place que Dieu ne donne pas. Diotref, pour donner un exemple, dans 3 Jean, on voit un homme qui voulait être le premier. Il n'acceptait pas même le ministère de Jean, l'apôtre Jean. Il avait mis de côté tout cela. Il avait mis de côté l'olivier, le figuier et la vigne pour être l'épine et pour donner aussi ce que l'épine peut donner. C'est le feu, c'est le jugement à la fin. L'épine nous parle du péché. Est-ce que je suis comme croyant? On peut aussi être dirigé par le péché. Romains 7 et 8 nous parlent de cela. Donc c'est vraiment une question importante. Est-ce que je suis dirigé par le péché ici, par la convoitise pour régner, pour dominer? Si j'ai rien donné, rien à donner, peut-être je peux régner sur mes frères, peut-être je peux les dominer. C'est ça le péché qu'on voit ici. Maintenant, quelques passages, quelques versets peut-être pour spécifier maintenant en rapport avec notre position, pratiquement. L'olivier peut penser au fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu veut produire un fruit. Galates 5, versets 22 et 23. C'est Christ. C'est neuf parties de ce fruit-là. L'amour, la paix, tous ces neuf aspects du fruit. C'est vraiment Christ reproduit en nous par l'Esprit. On peut penser aussi à Romains 11, où nous voyons l'olivier en rapport avec la souveraineté, la grâce de Dieu. Et puis là, la question est posée, est-ce que je veux continuer dans la grâce? Donc, ça c'est Romains 11. Est-ce que je suis vraiment sous l'influence de l'olivier, de l'Esprit Saint? Est-ce que je suis dirigé par l'Esprit? Est-ce que je suis un olivier? Dans Psaume 52, verset 8, ça c'est remarquable. Le psalmiste dit, je suis un olivier dans la maison de Dieu. Dieu veut nous avoir comme des oliviers, donc des frères et des sœurs qui sont entièrement identifiés avec l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, dans la maison de Dieu aussi, dans la présence de Dieu, où l'Esprit dirige au lieu de l'homme. Plusieurs autres versets on pourrait citer, mais vous pouvez peut-être trouver encore des références pour voir. On peut penser à la lumière que l'Esprit donne. J'ai mentionné l'onction déjà, l'Esprit, le fruit de l'Esprit, la graisse aussi. La graisse de l'olivier produit cette graisse, cette huile qui est très précieuse. Et puis il est dit ici, par laquelle on honore par moi Dieu et les hommes. Est-ce que je suis un instrument par laquelle Dieu est honoré parce que je suis sous l'influence de l'Esprit et où les hommes sont honorés aussi? Si quelqu'un parmi nous est dirigé par l'Esprit, cela va avoir un effet bénéfique pour les autres. Donc par quel principe est-ce que je suis dirigé? Et puis est-ce que je fonctionne comme un vase? Est-ce que je suis un olivier, pratiquement, un olivier dans la maison de Dieu? La deuxième question, en rapport avec le figuier. Le figuier, on le voit déjà dans Genèse 3, après la chute. On voit que Adam et Ève se sont couverts de feuilles du figuier, pas le fruit du figuier. C'est la propre justice, Genèse 3. Une apparence, une belle apparence, mais pas de fruit vraiment pour Dieu, parce qu'ils étaient désobéissants. Le figuier produit des figues, et ces figues nous parlent donc du produit de l'obéissance, le résultat de l'obéissance. Un exemple dans Jérémie 24. On voit dans les jours de Nebuchadnezzar, Jérémie qui avait encouragé les croyants ou le peuple de Dieu à se soumettre au joug du roi de Babel. Ce n'était pas agréable pour la chair religieuse. C'était une humiliation. Mais ceux qui se sont humiliés, qui se sont soumis à ce joug du roi de Babel, étaient des figues bonnes, extrêmement bonnes. Et les autres qui se sont révoltés, qui ne voulaient pas se soumettre au joug du roi de Babylone, étaient appelés des figues mauvaises. Donc on voit ici la figue en rapport avec cette question de l'obéissance. On peut obéir à la parole de Dieu ou bien refuser à obéir. On voit un homme dans Jean 1, Nathanaël. Il était sous le figuier. Il avait confessé ses torts. Il s'est humilié, sans doute. Et là, le Seigneur Jésus peut dire, voilà un homme sans reproche, sans mensonge. Vous voyez, ça c'est le fruit du figuier. Être sans reproche dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Hébreux 12 nous parle du fruit de la justice, qui est paisible, qui donne la paix. Si on se soumet à la parole de Dieu, si on se soumet à la discipline, par obéissance à Dieu, on va produire le fruit de la justice. Philippiens 1 aussi, on a référé à Philippiens 1, l'exemple de l'apôtre Paul, là, est parlé aussi de ce fruit de la justice. Quelle joie pour nous aussi d'être dirigé par la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu, au lieu de nos propres règles, nos propres pensées, et ainsi produire ce fruit de la justice qui est paisible, qui donne la paix. Une bénédiction pour les autres, si nous fonctionnons comme des figuiers. La douceur, vous voyez, ce fruit paisible, cette paix, cette douceur, est un bon fruit. Le Seigneur cherche des fruits. On voit dans Marc 10 que Israël était comme un figuier, mais il n'avait pas produit de fruits. Il n'avait pas cette justice pratique. Pas cette obéissance, pas de fruit pour Dieu, pas de bénédiction pour les autres. En rapport avec la vigne, on voit encore plus clairement que ça parle du Seigneur Jésus. C'est évident que le Seigneur Jésus était le vrai olivier sur la terre. Il était le vrai figuier, il a remplacé Israël. Et ainsi, il se mentionne comme le vrai cep, la vraie vigne. Le Seigneur a remplacé Israël. Mais il veut maintenant que nous soyons aussi des vignes, comme lui l'était. Psaume 80 nous parle du fait que le Seigneur Jésus était une vigne. Israël était une vigne, devenue infidèle, le Seigneur Jésus l'a remplacé. Maintenant, dans 1 Jean 1, nous voyons que l'apôtre Jean écrit aux croyants afin que votre joie soit accomplie. Dans les écrits de Jean, on voit cette joie. On voit le Seigneur Jésus comme la vigne qui était la joie pour Dieu, qui était aussi la joie pour les hommes. Il est dit ici, Jotam, mon mou qui réjouit Dieu et les hommes. Donc, est-ce que nous fonctionnons comme des vignes pour la joie de Dieu et pour la joie des hommes? Est-ce que je suis vraiment contrôlé par le Seigneur Jésus qui est la vraie vigne? Vous voyez, ce sont des leçons bien pratiques. Et si nous sommes vraiment dans le bien de ces choses-là. Si nous profitons de ces choses-là, on ne sera jamais pris par le système d'Abimélec. On sera identifié avec Jotham, l'éternel Jéhovah est parfait. Et on sera une bénédiction pour les autres et une joie pour Dieu. Par contre, l'épine produit seulement la malédiction. C'est la malédiction. Et on voit aussi ce principe-là pour les croyants. Ce qu'un homme sème, il va récolter. Il va le récolter. Si nous semons pour la chair, on va récolter pour la chair. Si nous semons pour l'esprit, on va récolter pour l'esprit. Galates 6, verset 7. Le fruit, c'est la vie éternelle. Donc, Abimélec est sous l'emprise de Satan. Satan a introduit le péché. Satan a causé que cette épine croisse dans le gouvernement de Dieu, Genèse 3. C'est beau de voir dans Exode 3 que Dieu s'identifie quand même avec l'épine. Israël, dans son état, est comme des épines, comme un buisson d'épines, de chardon. Dieu, dans sa grâce, s'identifie avec eux pour les délivrer. Mais le peuple était déjà délivré et maintenant il se place de nouveau sous l'épine. C'est ça la question. C'est ça le point pour nous à saisir. Dans l'histoire de l'Église aussi, mis côté l'olivier, le figuier et la vigne, il réintroduit l'épine. Quelle chose horrible. Maintenant, il réfère encore au bienfait que Jérubbaal avait fait. Il avait donné sa vie, exposé sa vie. Quel contraste avec Abimélec. Il réclamait tout pour lui-même, tandis que Gédéon avait donné sa propre vie, presque, pour le bien du peuple de Dieu. Maintenant, verset 18, un fils de sa servante. On voit ici le principe de l'esclavage. Les Galates aussi se sont placés sous l'influence d'une mauvaise mère. Agar, qui représente la loi, qui représente l'esclavage, et ainsi le peuple ici s'est placé sous l'influence d'une servante et de son fils, un esclave. Et puis même d'une relation inférieure, la concubine. Maintenant, la question, ils avaient à faire un choix, comme nous, comme vous et moi aussi, toujours, on a à faire un choix. Verset 20, « Sinon qu'un feu sorte d'Abimélec. » Il réclame maintenant la malédiction. Il est sur la montagne de la bénédiction, mais à l'autre côté de lui, il voit Ebal, ça c'est la montagne de la malédiction. S'il continue avec l'épine, un feu va sortir de là, envers Abimélec et envers les hommes de Sichem. C'est ça la rétribution. Et puis c'est répété souvent dans ce chapitre. Mais avant de parler de ça, j'aimerais souligner encore la place où Jotham s'est réfugié, à Béer. On ne sait pas exactement où Béer était situé, parce qu'il y avait plusieurs endroits avec ce nom Béer. Mais on peut penser aussi à ce Béer dans le désert, dans Nombre 21. Dans Nombre 21, on voit que les Israélites ont creusé des puits. Et là, cet endroit est mentionné comme étant Béer, puits. Et là, ils ont joué, ils se sont réjouis dans le Seigneur, ils ont eu cette eau-là, et pour boire, et aussi pour adorer Dieu. Et on voit à Béer les ressources de Dieu. Donc ce que j'aimerais souligner, c'est une place où Dieu a les ressources disponibles pour un reste fidèle, une place réservée pour Dieu avec ses ressources. Maintenant, je veux revenir à un point que j'ai oublié dans la première session sur Juge 8. Dans Nombre 21, on voit que le peuple était désobéissant, Dieu a envoyé des serpents, puis là, comme remède, Moïse a construit ce serpent d'airain. Et ce serpent d'airain, qui était donc une délivrance là, est devenu plus tard un piège pour le peuple de Dieu. Et dans les jours d'Ézéchias, on voit qu'il a détruit ce serpent d'airain, Nehustan, à cause de l'idolâtrie. Et j'aurais voulu mentionner ce point-là en rapport avec l'éphod que Gédéon avait fait. Parce que Gédéon avait cet éphod, une pensée qui était bonne, peut-être un mémorial de la délivrance, des choses qu'ils ont fait avec le butin qu'ils ont eu, donc le fruit de la délivrance. Mais quand même, cela est devenu un piège, devenu une chose vouée à l'idolâtrie, comme ce serpent d'airain, de Nombre 21, signe de la délivrance de la part de Dieu, est devenu un objet d'idolâtrie. C'était juste une parenthèse. Mais c'est beau de voir que Jotham, qui nous parle de la perfection de Dieu, est gardé aussi par Dieu à un endroit où il y a des ressources disponibles pour le reste fidèle. Maintenant, on voit que Dieu agit ici selon ses principes gouvernementaux. Les voies de Dieu, les voies gouvernementales de Dieu, verset 23. Dieu envoya un mauvais esprit. On voit ça aussi dans les jours de Saül, 1 Samuel 16. On voit aussi dans Daniel 10, si vous voulez avoir plus de détails sur ces choses-là. On voit qu'en arrière de la scène que nous voyons sur la terre, il y a ces esprits qui combattent de la part de Satan et aussi les esprits de la part de Dieu. On voit dans 1 Roi 22, un autre exemple, le roi Achab voulait combattre le roi de Syrie de la Syrie, et Dieu avait envoyé un mauvais esprit. Donc un mauvais esprit qui a fait prophétiser les prophètes du roi. Donc on voit ici que Dieu est en contrôle, c'est ça que je veux dire. Ce sont des esprits de Satan, mais Dieu est quand même en contrôle, même en contrôle de ces esprits-là. Il peut se servir de ça, on le voit dans le livre de Job aussi. Donc Dieu est en contrôle, c'est ça qu'on voit. Et Dieu agit maintenant selon les principes de judiciaire, les principes de son gouvernement. Et les hommes de Sichem agirent perfidement envers Abimélec. Eux ne savaient pas ça, mais c'était par l'influence de ces mauvais esprits. On voit ça plus tard aussi dans un rapport avec Israël, dans l'Antichrist. Ce sera un mauvais esprit. Et aussi dans l'Apocalypse, on a plusieurs détails là-dessus. Mais tout est sous le contrôle de Dieu. Et on voit cela aussi dans l'histoire de l'Église. Après cet apogée du règne du pape, on voit que les nations de l'Europe se sont opposées à sa domination et graduellement, cela a changé. Ce qu'on voit aussi, à cause de ces esprits mauvais, une division du peuple. Il y a toutes sortes d'éléments et les uns sont contre les autres. Il y a les hommes de Sichem, il y a ceux qui suivent Abimélec, il y a aussi un chef de la ville, Zébul, qui est soumis à Abimélec, mais quand même représente une partie différente. Puis là, il y a Gaal, fils d'Ébed, toutes sortes de partis. Et les uns sont contre les autres. Ils voulaient tout coopérer ensemble au début, mais maintenant, ils se divisent sous l'influence de ces mauvais esprits. Gaal, c'est intéressant, verset 26 veut dire mépris ou rejet. Ébed veut dire esclave. Ça parle donc de sa position. Et puis, verset 27, on voit que ces gens-là imitent la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui avait été donnée par Dieu, au peuple de Dieu, et maintenant remplacé par une fête semblable, la fête de la moisson des nations, ou des gens, des païens. Aussi quelque chose qui a eu lieu dans l'histoire de l'Église, les choses de Dieu remplacées par ses influences païennes. Mangèrent et burent et maudirent Abimélec. Maintenant, Zébul, verset 28 à la fin. Là, on voit cette influence des hommes de Hamor, père de Sichem. Donc là, il y a encore cet élément ancien des Cananéens. On voit donc le mélange entre le peuple de Dieu, maintenant sous l'influence d'Abimélec, et les autres, les hommes de Hamor et Sichem, s'étaient soumis à ça, mais maintenant il y a une division, une hostilité. Maintenant, Zébul, verset 30, ça c'est intéressant. La racine de ce mot-là se trouve aussi dans Béelzébul, un nom de Satan, et aussi dans Isébel, qui représente donc la prophétesse dans l'église de Thyatire, Isébel. Donc Zébul, c'est remarquable, c'est la même racine qu'on voit dans ces noms-là. Cet élément de Satan, Béelzébul dans l'église, et cet élément d'Isébel, cette fausse prophétesse. Donc Abimélec va attaquer son peuple, il ne peut rien faire que tuer. Il a tué ses frères, il va tuer maintenant beaucoup de gens. L'Église a fait la même chose, on l'a vu. À la fin, il a démoli la ville, verset 45, ça veut dire Sichem. Donc d'abord, le troupeau de Gaal a été détruit ou chassé, et maintenant aussi la ville de Sichem a été détruite, démolie, et il sema du sel pour indiquer que c'était une ville maudite maintenant. Mais ce n'est pas la fin, parce que verset 46, il y a encore un donjon de la maison du dieu de Bérite. Donc Baal-Bérite, cet idole-là, il y avait un temple, et peut-être c'est ensemble avec Beth-Milo qu'on a vu tantôt, maison de Milo. Là, il y avait donc une citadelle, une fortification, et ces gens-là se sont retirés là pour leur propre protection. Mais même là, le feu est venu, ils sont tués par le feu. On se rappelle cette épine qui produit du feu. Maintenant, la fin d'Abimélec, parce que l'épée est à deux tranchants. Maintenant, Abimélec est tué par cette meule jetée par une femme. Il voulait ôter cet opprobre, mais même plus tard, dans 2 Samuel 11, Joab réfère encore à cet événement. Donc, il n'a pas pu effacer cet opprobre. Verset 55, quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun à son lieu. Ici, on voit les hommes d'Israël. On voit donc qu'eux s'étaient placés en partie sous l'influence d'Abimélec, et aussi les hommes de Hamor, ces Cananéens, mais les hommes d'Israël s'en allèrent chacun à son lieu. Ils voient peut-être le débâcle et leur manque aussi, mais les voix de Dieu, 56, Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait, et tout le mal des hommes de Sichem. Dieu le fit retomber sur leur tête. Donc on voit la justice de Dieu ici, dans ses actions. Et puis si Abimélec était un feu, Dieu aussi est un feu. Dieu est un feu pour l'épine ici. Hébreux 12 nous parle du fait que Dieu est un Dieu dévorant, qui consume. Si nous sommes désobéissants, le peuple de Dieu est désobéissant, Dieu se révèle comme un feu qui va détruire l'épine. Donc, ça marche de deux côtés et finalement, Dieu est en contrôle. C'est Dieu qui est un feu consumant, dévorant. Ainsi, la malédiction de Jotham, comme nous avons vu, fils de Jérubbaal, vint sur eux. Et ainsi, on voit aussi une malédiction dans Apocalypse 18, une malédiction sur l'Église qui est dite là, j'ai référé à ça déjà. Un ange puissant leva une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, disant, ainsi sera jetée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. C'est la malédiction de cet ange-là, la malédiction de la part de Dieu. Mais dans Apocalypse 18, verset 20, il est dit, ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. Jotham représente ses apôtres, ses prophètes, ses saints, le reste fidèles sur la terre pour Dieu, qui savent que Dieu va régler ces questions-là. Jotham, c'est intéressant, Jotham n'a pas pris l'initiative dans ses propres mains. Jotham a laissé Dieu agir. Ça, c'est aussi une leçon pour nous. Parce que les chrétiens, souvent, sont tentés à prendre l'initiative dans leurs propres mains. Ils vont prendre l'épée dans leurs mains. Jotham n'a pas fait ça. Il a prononcé cette malédiction de la part de Dieu et il s'est remis entre les mains de Dieu. Donc, c'est vraiment des pages noires. Ça représente 1000 années de l'histoire de l'Église. Et c'est aussi dans le chapitre le plus long des juges que nous voyons ces détails-là. Mais une chose qui nous console, c'est que Dieu est en contrôle et Dieu veut maintenant aussi nous mettre au test si nous voulons fonctionner selon la place de Jotham, selon l'olivier, le figuier, la vigne que nous avons vue. Donc le Seigneur nous aide à prendre cette place-là pour être une bénédiction mutuelle et aussi pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas s'il y a encore des questions parce que c'est un long chapitre et puis on a sauté plusieurs choses. Je mentionnerais peut-être le verset 50 que cette ville Thébès, c'était une ville vassale de Sichem. Donc, vu ensemble avec Sichem dans ce chapitre-là.